Radio Campus Angers, création, découverte,
etc.
Vous écoutez Radio Campus Angers, vous avez bien raison. Bonsoir à tous, il est 19h, c'est l'heure des informations. Les municipales approchent et les candidats s'excitent à grands coups de déclaration. À Angers, des étudiants manifestent pour leur droit à ne pas être payés pendant leur stage. Les Chinois auront bientôt des petits frères et des petites sœurs. La France se fait taper sur les doigts par l'Union européenne. Et bien sûr, vous pensiez que je n'y penserais pas, mais si, je sais qu'il y a un match important ce soir. Ça approche et il s'active. Les candidats aux élections municipales n'en peuvent plus de faire des annonces. Dans l'ordre, voilà Christophe Béchu qui hier a présenté 10 idées pour l'emploi, rien que ça. Dans le désordre et sans exhaustivité, Christophe Béchu propose de favoriser la création d'entreprises grâce à des chèques entreprendre, de créer un pack accueil entreprise, de simplifier les démarches des acteurs économiques en fusionnant certains services de la ville, etc., etc. Pendant ce temps-là, Jean-Luc Rotureau s'attaque dès lundi à la distribution de sa lettre aux Angevins. 80 000 exemplaires au total, ça va faire du taf. Extrait choisi. Vous êtes nombreux à me dire ne plus avoir confiance dans la politique traditionnelle. La lutte de partis et d'égo vous ont lassé, vous avez raison. La fonction de maire est trop engageante et la gestion d'une ville trop importante pour être kidnappée. On ne fait pas de la politique pour faire carrière, et il poursuit. Je vous propose une liste volontairement ouverte et je vous ferai connaître dans les prochains mois. Et puis Laurent Gérot, candidat UDI, a reçu le soutien de différents partis centristes. Il y a une semaine, lorsqu'il avait officialisé sa candidature, le Modem Angevin et l'UDI jeune avaient quelque peu critiqué sa démarche. Il doit donc être rassuré. Non à la gratification pour les stages dans le secteur public. Le mot d'ordre peut sembler étrange, mais c'est pourtant ce qu'ont réclamé ce matin les étudiants en psychologie lors d'une manifestation dans le centre-ville. Partis de la place du ralliement à 8h, les matinaux, ils sont arrivés devant la préfecture où ils ont été reçus dans l'après-midi. Jusqu'à présent, la gratification de stage était obligatoire dans le secteur privé, mais une loi votée le 23 juillet dernier l'étend au secteur public. Résultat, pour Guillaume Lelon, étudiant en Master 1 à l'IPSA, beaucoup de structures refusent les stagiaires. Les étudiants proposent donc deux solutions. La première, que des fonds soient levés, mais on voit mal le public lever des fonds pour payer des stagiaires du public. Deuxième solution, qu'une exception à la règle soit créée pour les étudiants du social, mais on voit mal pourquoi d'autres étudiants ne viendraient pas rapidement réclamer cette même dérogation. C'est quand même bien rare que des manifestants réclament le droit de ne pas être rémunérés pour un travail. Les temps changent. Ils auront des frères et sœurs. En Chine, le dogme de l'enfant unique a été assoupli aujourd'hui. Désormais, les couples dont au moins l'un des membres est lui-même enfant unique seront autorisés à avoir deux enfants. En 2001, il y avait 108 hommes pour 100 femmes en Chine. Il devenait donc de plus en plus difficile pour les Chinois de se caser. Voilà qui pourrait rétablir un peu ce déséquilibre démographique. Bruxelles n'est pas super contente des mesures engagées par le gouvernement français. L'Union européenne soupçonne Paris d'être un peu juste en cas de dérapage des finances publiques. Bruxelles n'est pas fan non plus de la réforme des retraites qui pourrait s'avérer insuffisante. Il faudrait aussi que la France se débrouille pour réduire le coût de la main-d'œuvre. Résultat, la France est toujours en phase d'examen approfondi. Comprendre, il va falloir montrer patte blanche à Bruxelles pour pouvoir se détendre un peu. Comme les oiseaux, les Roms voleraient naturellement. Citation de Jean-Marie Le Pen il y a plus d'un an lors de l'université du Front National à La Baule. Il a été condamné aujourd'hui à 2 mois de prison avec sursis, assorti d'une amende de 10 000 euros. Pourtant, le FN est devenu un parti sympathique. Ce n'est pas moi qui le dis, mais Geert Wilders, le responsable du Parti de la Liberté, le parti populiste néerlandais, copain du FN français donc. Ils se sont rencontrés mercredi pour convenir d'une liste commune entre potes d'extrême droite. Et si en vue des élections européennes de 2014, ça devrait être sympa. Ils mangent du borscht et boivent de la Orilka. Ils ont souvent froid et ils peignent des œufs. Ce soir, ce sont les ennemis de la nation. Dans moins de 2 heures, les Ukrainiens affrontent les Français. Ça se passe à Kiev et c'est très important puisque les matchs aller-retour vont permettre de se qualifier pour la Coupe du Monde au Brésil. Le deuxième, c'est mardi. Ça s'appelle un match de barrage, voilà. Donc, comme je n'ai pas tout compris, que je n'ai pas envie de raconter n'importe quoi, je suis allée voir David, notre réalisateur, qui m'expliquait gentiment. Donc, je cite, « S'ils gagnent 2-0, comme ils sont à l'extérieur, ils ont de fortes chances de gagner. S'ils gagnent 1-0, t'as qu'à dire que c'est ballotage favorable. Si c'est match nul, le match retour sera très ouvert. S'ils perdent, c'est rattrapable, mais il vaut mieux qu'ils perdent 2-1 que 1-0. » Merci David. Radio Campus Angers, il est l'heure de chasser les ballasts et de tenir l'immersion, l'heure d'entrer dans le sous-marin.
Thank you.
Il paraît que l'on vit tous dans un sous-marin jaune. Bonsoir, le nôtre navigue dans les eaux plus ou moins troubles de l'actualité, du lundi au vendredi, excepté le mercredi, jour des enfants pendant lequel nous devons nous reposer. Nous sommes de chaque thématique, qu'elle soit politique, économique, associative, étudiante ou navale, qu'elle soit nationale, locale ou sur un point égaré des eaux internationales. Sonar activé, périscope remonté, rien ne nous échappe. Ici Tiphaine, votre commandant de bord pendant cette heure en eau profonde. Et avec moi ce soir au poste de manœuvre, Thomas, Sonia, Clara et Mathilde, deux fois. Ce soir au sommaire du sous-marin, nous recevrons Gaëlle Thébault et Olivier Laurette. Du collectif féministe d'égal à égal, merci à vous d'être avec nous ce soir.
Merci de nous recevoir.
Merci.
En deuxième partie d'émission, Sonia adressera son débrief subjectif de la semaine. Clara, à la barre pour sa rubrique sexo, décryptera les habitudes des Françaises au lit ou en dehors du lit d'ailleurs. Mathilde, notre dynamite culture, nous racontera ce qu'elle a fait cette semaine et ce qu'elle nous conseille pour la semaine prochaine. Et comme chaque jour en fin d'émission, vous retrouverez l'agenda de ce soir et la bulle sonore. Mais avant d'attaquer le plat, on commence par l'entrée, le billet d'humeur du jour. Et comme on est vendredi, c'est celui de Thomas. Thomas, toi, tu as vu un film cette semaine.
Ça aurait pu être le scénario du blockbuster hollywoodien de l'automne. Le décor est planté. Un père divorcé qui essaie de rattraper ses absences répétées en emmenant sa fille pour des vacances dans une destination exotique. Un groupe de scientifiques internationaux étudiant les phénomènes météorologiques extrêmes, un petit dealer de méthamphétamine errant dans les rues de Manille, et un ancien vendeur de voitures devenu pasteur évangélique. C'est sûr, ça sent bon le scénar facile. Il suffit de placer l'action aux Philippines, de faire intervenir le plus grand typhon que le monde ait jamais affronté et de transformer les survivants affamés de la catastrophe en zombies dévorant tout sur leur passage. Sauf que cette fois-ci, Rambo n'a pas débarqué avec une flotte d'hélicoptères pour emmener les blessés. Cette fois-ci, la réalité a dépassé la fiction. Ayan, c'est le nom du monstre qui s'est abattu le 8 novembre sur les Philippines. Ayan, c'est un hydre tentaculaire, une masse de nuages, de vent, de pluie, de 2000 km de long et de 1000 km de large. Une masse avec en son centre une zone active de 500 km de diamètre et des rafales de vent pouvant atteindre les 320 km/h. Ayan, c'est un peu le grand frère de Katrina, l'ouragan qui a dévasté la Nouvelle-Orléans en 2005. En plus grand, en plus fort, en plus rapide, en plus dévastateur aussi. 11 millions de personnes touchées, des centaines de villages coupés du monde, des dégâts qui se chiffrent en milliards d'euros. En plus meurtrier aussi. 10 000 morts. Le chiffre est tellement énorme qu'on a du mal à réaliser. Et le bilan de la catastrophe devrait encore s'alourdir. 7 000 îles composent cet archipel, faisant de l'organisation des secours un casse-tête logistique. Les rescapés, eux, vivent en enfer. En plus du manque d'eau, de nourriture et de médicaments, les pillages et l'insécurité font leur apparition. Qu'ils se nomment ouragans dans l'Atlantique Nord ou dans le Pacifique Nord-Est, typhon en Asie du Sud-Est ou cyclone partout ailleurs, ces noms désignent en fait le même phénomène météorologique. Des tempêtes tropicales. Tempêtes qui ont besoin d'une température marine de 26 degrés pour se former. Un fameux coup de pub pour la 19e conférence des Nations Unies contre le changement climatique qui s'est ouverte le 11 novembre à Varsovie et que tout le monde souhaitait oublier. Une conférence où rien ne sera décidé et qui se serait bien passé de ce sacré coup de projecteur. C'est vrai que la nature est parfois monstrueuse. Parfois, elle dévaste. Parfois, elle tue. Mais jamais elle ne condamne et jamais elle n'exécute. À la différence des hommes. Cette semaine, en Corée du Nord, 80 personnes ont été fusillées, dont plusieurs dizaines, pour avoir osé regarder la télévision sud-coréenne. Alors, montez avec nous dans notre arche de Noé sous-marinesque. Vous y serez à l'abri à la fois des typhons et des exécutions.
C'est vrai qu'on est bien dans le sous-marin et tout de suite on écoute Rai avec Hunger. Just feel like a shadow. Avec Anger. Gaëlle Thébault, Olivier Laurette, merci d'être avec nous ce soir.
Merci. Merci à Radio Campus et à vous, Tiffaine, de nous recevoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Je le disais en introduction, vous êtes donc du collectif féministe Égal à Égal, un collectif qui rassemble des organisations associatives, syndicales et politiques. On citera Alternative Libertaire, Europe Écologie Les Verts, le PCF, Sud, Solidaire Étudiant, le Planning Familial ou encore Quasar, l'association LGBT qu'on recevra lundi. Je ne me suis pas trompée jusqu'ici?
Non, on peut finir de les citer. Du coup, il y a également la FSU, il y a également le collectif Émancipation, qui j'oublie. Bon, enfin, désolée pour ce que j'oublie.
C'est pas une liste exhaustive. Non. D'égal à égal, donc à 2 ans, ça a été créé en 2013. 11.
Alors, 3 ans, en
trois
fait.
3 ans bientôt.
Voilà,
3 ans déjà.
On a déjà proposé cette année la 3e édition des journées d'égal à égal.
Et le but, donc, voilà, c'est d'organiser des événements comme les journées qui ont eu lieu du 22 au 26 octobre dernier.
Oui, tout à fait.
Qui avait cette année comme thème les inégalités hommes-femmes dans le travail.
Oui.
Et on écoute tout de suite un reportage de Mathilde qui est allée samedi 26 octobre lors du lâcher de ballon qui clôturait ces journées.
Depuis hier, tout le public a marqué sur des papiers toutes les inégalités qu'il souhaitait voir s'envoler. Alors, de manière symbolique, on a accroché toutes les inégalités que vous avez notées sur des papiers à des ballons. Alors, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous lire quand même un petit peu les inégalités avant qu'on les envoie dans le ciel? Mais oui. Ah non, pas toutes.
Première inégalité, la double journée, c'est pour les femmes.
C'est
par là. Par exemple, voilà, les femmes savent mieux s'occuper des enfants. Alors ça, c'est une belle connerie. Par exemple, si une femme est violée, c'est de sa faute. Hein, c'est bien aussi. C'est bien, on participe, on ne me laisse pas tout seul à faire le matin au boulot, on parle de leur travail, de la veille aux hommes, et de leur bonne et mauvaise mine, et de leur coiffure aux femmes. Effectivement, hein, effectivement. Tu seras une mère, ma fille. Celle-ci, elle est bien dégueu aussi. Les femmes sont plus touchées par le travail précaire, ça c'est vrai aussi.
Voilà, donc on a entendu là quelques préjugés et stéréotypes qui touchent les femmes. Ma première question sera pour vous, Olivier Laurette, un homme dans un collectif féministe. Alors c'est une question qu'on doit vous poser souvent, mais j'aimerais que vous y répondiez quand même. Alors,
souvent quand la presse m'interroge, oui, elle me pose cette question. Je crois que le féminisme, c'est pas un réflexe naturel de femme. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on est forcément féministe. Parce que c'est un ensemble d'idées. Et je pense que quand on est un homme, on n'est pas forcément non plus anti-féministe. Donc, ensuite, je crois qu'il y a un préjugé courant sur le féminisme, c'est que ce serait une volonté des femmes de prendre le pouvoir sur les hommes. Et je crois que nous, dans le collectif d'égal à égal, on défend tout à fait autre chose, à savoir la volonté d'une égalité entre mes femmes. Donc, de ce point de vue-là, en tant que mâle, par ma naissance, je me sens pas du tout menacé par le féminisme. Et puis, je crois aussi que la lutte féministe, elle consiste en partie à lutter contre un certain nombre de stéréotypes sur les femmes.
Oui.
Mais s'il y a des stéréotypes sur les femmes, il y en a aussi sur les hommes. Et donc, d'un certain côté, les hommes ont aussi à y gagner.
Et on sent bien que c'est un sujet qui touche encore beaucoup de monde. Il y a eu, je crois, 800 personnes en tout pendant ces journées du mois d'octobre.
Oui.
Comment vous expliquez que la question de l'égalité homme-femme intéresse toujours autant alors qu'on pourrait penser que les combats sont déjà gagnés ?
En fait, on croit que les combats sont gagnés parce qu'on entend souvent dire que les femmes ont conquis le droit de vote, le droit de travailler, le droit d'avoir un compte en banque, le droit d'avorter. Hein, bon, c'est des grandes idées. Alors c'est vrai, évidemment, tous ces droits, ils ont été conquis. Cependant, c'est pas parce qu'ils ont été conquis qu'on n'a plus rien à conquérir. Hein, parce que l'égalité, elle est certes écrite dans la loi, mais elle est pas réelle. L'égalité salariale, c'est légal, hein, c'est écrit dans la loi. Toutes les entreprises et la fonction publique ont l'obligation de rémunérer leurs salariés sans discrimination. Or, c'est pas le cas, on le sait. Hein, il y a toujours 27% d'écart. Alors ça, c'est du brut. Après, une fois qu'on a ôté, enfin qu'on a lissé, qu'on a ôté les temps partiels, etc. Enfin bref, tout ce qui peut provoquer, on va dire, de l'écart salarial, il reste 9% d'écart qui sont inexplicables.
Dans le public comme dans le privé, c'est...
Ça, c'est, oui, c'est globalement. Et la fonction publique, malgré ce qu'on pourrait penser, n'est pas meilleur élève que le privé. Hein. Donc c'est un tout petit peu moins, mais il y a aussi des écarts salariaux qui existent entre les hommes et les femmes. Bref, pour répondre à votre question, on a le sentiment que tout serait acquis pour les femmes. D'ailleurs, l'argument souvent avancé contre le féminisme, mais qu'est-ce que vous voulez encore, quoi, voilà, ça y est, l'égalité, elle existe, ça va, quoi, ça va. Et en réalité, non, ça ne va pas parce que tant que dans le travail il y aura des inégalités, tant que les femmes seront majoritairement victimes de violences, tant que le sexisme existera, tant qu'on aura des difficultés éventuellement à avorter si on le souhaite, tant qu'on aura du mal à faire reconnaître par exemple qu'on ait une sexualité qui soit une sexualité propre et que les gens comprennent que non veut dire non, etc. Enfin, en tout cas, tant que tout ça ne sera pas acquis, l'égalité n'existera pas. Donc on lutte effectivement dans ce collectif pour l'égalité réelle.
Est-ce que l'année 2013 a été compliquée pour la cause féministe avec, je pense, aux associations de pères en colère? On a entendu plein de préjugés, peut-être, plus que d'habitude.
Globalement, l'année 2013 n'a pas été très bonne, mais je ne vais pas vous dire que l'année 2012 l'a été, ou 2011. En fait, chaque année apporte son lot, on appelle ça des backlashes. C'est-à-dire c'est des retours en arrière, c'est des petites vagues d'avancée, puis floum, on se reprend la vague dans la figure. Vous voyez, quand vous êtes à la plage, vous croyez qu'elle est passée, puis en fait, pfft, elle revient et elle fait froid. Et ça s'appelle les backlash, et c'est les petits effets cliqués. Donc tous les ans, il y en a. Il y a eu l'abrogation de la loi sur le harcèlement sexuel, par exemple, aussi. Là, effectivement, depuis plusieurs mois, il y a une forte poussée des mouvements masculinistes. Donc c'est des mouvements anti-féministes. Alors c'est lié aussi, on va dire, à une conjoncture sociale, hein, qui fait qu'il y a une espèce de grand relâchement. Hein, on va tous se lâcher, allez, on y va, on va tous... on décomplexe, quoi, hein, un petit
oui,
peu.
Oui, une parole décomplexée, c'est
voilà,
aussi, oui.
Donc c'est une décomplexion généralisée, et cette décomplexion généralisée elle favorise une parole antiféministe violente, mais comme tout dans la période favorise les propos racistes, etc. Ça va avec. Hein, c'est-à-dire que quand on ne sait pas où taper, on tape sur les minorités. Hein, et donc, voilà.
Pour qu'on comprenne un petit peu les mouvements masculinistes, on ne va pas parler à leur place, mais quelles sont leurs revendications?
Disons que par exemple, ce dont on en a entendu parler en France récemment, là, les papas là, qui montent dans les grues pour réclamer la garde de leurs enfants, bon, ça, c'est des associations de parents dans lesquelles il peut y avoir des gens qui, sincèrement, ont des problèmes, etc. Mais derrière tout ça, on sait qu'il y a des mouvements idéologiques, en particulier qui naissent depuis une trentaine d'années au Canada, par exemple, au Québec, et qui sont des mouvements clairement idéologiques, antiféministes, des mouvements vraiment, on pourrait dire, réactionnaires, donc qui lisent, en fait, la société actuelle comme une espèce de phase de décadence où les femmes auraient justement cherché à reprendre le pouvoir sur les hommes et qui tenteraient de reconquérir un pouvoir masculin, donc en critiquant toutes les avancées, en fait, en termes de droits des femmes qui ont pu exister, quoi.
C'est une défense du patriarcat.
Voilà
et de la société patriarcale dans sa vision la plus stricte, quoi, de l'exploitation d'une classe par une autre.
Une des tables rondes des trois jours du mois d'octobre était consacrée à la sexualisation des métiers et à l'orientation des élèves vers une voie professionnelle particulière. Par exemple, les femmes seraient plus attirées par des filières de sciences humaines et les hommes par des filières de sciences dures. Est-ce que vous avez, pendant cette table ronde, constaté que c'était effectivement palpable? Est-ce que vous avez quelques chiffres ou...
Alors oui, d'abord je vais juste rappeler quand même que dans le secondaire, globalement, actuellement, de nos jours, les filles réussissent mieux, donc jusqu'au bac.
Serait lié à quoi? Je vous arrête, mais... Ouais.
Eh bien parce qu'on leur inculque tellement que justement il faut être sage et qu'il ne faut pas trop faut pas être perturbatrice dans la classe, etc., etc., qu'en intériorisant tout ça, les apprentissages sont meilleurs. Par exemple, à la JAPD, donc la journée d'appel, on constate que les filles lisent mieux, les filles redoublent moins. Enfin, ça, c'est quantifié.
C'est des faits concrets.
Voilà, c'est des faits, c'est quantifié. 77% en 2011 des filles d'une classe d'âge ont eu le bac, 67% seulement des garçons, donc il y a quand même 10 points d'écart sur les réussites. Bon. Bref, donc globalement, dans le secondaire, elles réussissent mieux et elles sont majoritaires l'enseignement supérieur. 55% de femmes contre 45% d'hommes. Donc elles sont majoritaires dans l'enseignement supérieur, mais qualitativement, on ne les retrouve pas dans les mêmes filières. Par exemple, elles sont plus que 42% en classe prépa. Donc filière d'excellence égale garçon.
Quelle que soit la prépa.
Toute prépa confondue, c'est encore plus vrai dans les prépas scientifiques, c'est un petit peu moins vrai dans les prépas management, etc., commerce. Mais 42% seulement en classe prépa de femmes. En formation scientifique, toutes filières confondues, elles ne sont que 30%, donc contre 70% de garçons. Et elles ne sont que 25% de femmes dans les écoles d'ingénieurs. Contre 75% de garçons. Alors ça a progressé. En 80, il y avait que 6% de filles en école d'ingénieur. Elles sont 25% maintenant. Ça veut dire qu'on a quand même progressé. Mais ceci dit, on reste quand même sur un quart, trois quarts. Voilà.
Oui. Alors comment ça s'explique? Est-ce que c'est justement ce dont vous parliez tout à l'heure, le fait qu'on leur apprend à être bien sage? Et en même temps, on en prépa, il faut être bien sage pour y arriver. Comment vous expliquez ça, le fait qu'il y a un plafond de verre?
Alors, il y a un plafond de verre. Il y a plusieurs explications qui sont avancées par les scientifiques et les chercheurs qui travaillent sur le sujet. Il y a évidemment un lourd héritage éducatif qui commence dès la crèche et qui se poursuit à l'école, qui se reprend, qu'on revoit dans la pub, dans les jouets, etc. Là, il a été question pendant les journées d'égal à égal, prenez les pages des catalogues de jouets, les pages roses, c'est les métiers des filles, et les pages bleues, c'est les métiers des garçons.
Et en même temps, quand Super U fait un catalogue où un garçon cuisine, voilà, et où une petite fille joue aux voitures, ça fait scandale aussi.
Oui, alors ça fait,
l'autre côté,
ça fait scandale au prix.
Voilà,
ça fait scandale auprès des assos qui diabolisent la théorie du genre, ouais, qui n'existe pas. Bref.
Et c'est vrai que par rapport, juste une petite parenthèse, par rapport au catalogue de jouets, c'est ce qu'on avait aussi observé pendant les journées égales à égales, c'est qu'il y a des métiers hyper féminisés, genre assistant maternel, enfin garde d'enfants, et des métiers très masculinisés. 99% comme conducteur de travaux d'un camion de BTP. Et dans les catalogues de jouets, quand on regarde les jeux d'imitation, des filles, c'est jouer avec un bébé. Les jeux d'imitation des garçons, c'est des camions. Donc on a un formatage qui est déjà très précoce, quoi.
Et donc je rebondis sur justement jouer avec un bébé, parce qu'il y a quand même une naturalisation très forte par rapport à la maternité. Et la maternité, c'est quelque chose qui est encore actuellement central, quoi, dans la vie de la petite fille. C'est-à-dire que dès petite, la petite fille, elle est destinée à devenir une maman. Et toute sa vie, elle intègre le fait qu'elle va devenir une maman. Alors ça crée, vous avez parlé de plafond de verre, hein, c'est vrai. Donc il y a une forme d'auto-censure aussi, hein, de la part des femmes qui pensent moins bien réussir, être moins compétentes, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont vérifiables dans les études, hein, qui sont faites. Et puis, il y a les choses réelles qui font que la jeune femme va être plus particulièrement discriminée à l'embauche parce que son employeur va soupçonner la maternité. Ça va se retrouver après, c'est-à-dire que si la femme est ambitieuse, carriériste, n'a pas d'enfant, etc., ça va être soupçonneux aussi, quand même. Parce que dites donc, quand même, ça ne se fait pas de ne pas avoir d'enfant. Donc si vous avez des enfants, c'est pas bien, mais si vous n'avez pas d'enfant, c'est pas bien non plus. Enfin, voilà. Donc il y a cette problématique de la maternité, de la naturalisation des certaines qualités prêtées aux femmes. Hein. Les femmes sont douces, les femmes sont maternelles, les femmes elles savent bien s'occuper des autres, les femmes arrondiraient les angles, etc. etc. alors que les garçons, ils sont fonceurs, ils sont ambitieux, tout ça. Ils savent faire des trucs avec des objets lourds, etc.
Voilà. Ils ont de la force.
Ils ont de la force. Voilà. Donc il y a des représentations qui sont super profondément ancrées dans la société, qui sont entretenues, hein, par la pub, par la société de consommation, etc. Enfin, regardez dans quelle posture on met les femmes pour vendre, je sais pas quoi, des motoculteurs, quoi. Enfin, où là il y a une pub en ce moment, on passe devant tous les jours, il y a une femme assise sur un rocher et le slogan c'est le Saint-Nectaire, une affaire de femme.
Alors, c'est même, encore cette publicité là elle est assez étonnante parce qu'elle est un peu incompréhensible. La plupart du temps, les femmes sont mises. Ce qui est plus remarquable par rapport à ce que tu disais, c'est quand toutes les publicités pour quelque chose qui est à manger, et qui a une cuisine avec une préparation, c'est toujours la maman qui prépare aux enfants. Oui. Et à chaque fois, vous pourrez faire le test, vous pouvez vous demander, mais où est papa ?
Il est au travail.
Mais il n'est jamais là, quasiment. Il est au boulot.
Alors, pour revenir à ces questions-là, justement, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Parce qu'on voit bien qu'à l'embauche, il y a des discriminations. Donc ça, c'est peut-être tout simplement à mettre du côté législatif, non ? Enfin, est-ce que vous proposez quoi ? Il y a quoi comme solution ? Parce que tout ce qui est plafond de verre, c'est bien en amont et ça se joue dès l'éducation de l'enfant. Alors, ça se joue où ? Qu'est-ce qu'il faudrait ?
Le problème, c'est que là, sur l'aspect législatif, en termes d'égalité salariale, la loi, elle existe. Alors après, clairement, on n'a pas les moyens de l'appliquer, et puis sans doute pas la volonté non plus de l'appliquer. C'est-à-dire que pour qu'une loi soit appliquée, il faut qu'il y ait un moyen de contrôle. Or, pour le moment, en démantelant la fonction publique et l'inspection du travail, on ne va pas faciliter l'aspect contrôle. Bon, donc il y a ça. Donc il y a l'aspect législatif, c'est vrai, mais il faudrait un arsenal
de contrôle derrière,
voilà, coercitif. Et puis il y a tout le reste, c'est-à-dire ce qui est peut-être un petit peu moins visible. Mais par exemple, pour faciliter l'égalité, il faudra avoir une politique réelle de petite enfance. C'est-à-dire qu'actuellement, étant donné que dans la société, plus de 80% des temps partiels sont occupés par des femmes, et que le salaire de la femme est toujours considéré comme le salaire d'appoint dans le ménage, eh bien, c'est la femme qui va cesser son emploi dans le cadre d'un congé parental, par exemple. Et après, le retour à l'emploi, il est difficile pour les femmes qui ne sont pas diplômées, peu qualifiées. Donc voilà, donc l'incitation de retour au travail, il faudrait qu'il soit facilité par une politique de petite enfance qui permette à chacun et chacune de choisir. Et puis le problème de avoir un SMIC pour un 20 heures semaine et gagner 700 euros par mois. Bah voilà, si vous devez payer votre nounou à côté et faire un job intéressant, donc ça se pose de manière extrêmement prégnante pour encore plus les femmes sans qualification et puis également pour éventuellement des étrangères, des femmes sans papier, etc., donc qui sont dans une situation de précarité encore plus grande.
Olivier Lorette, vous vouliez ajouter quelque chose sur cette question-là ?
Oui, c'était juste sur la loi sur l'égalité homme-femme dans les entreprises. Elle existe effectivement, comme ça a été rappelé, mais en fait, en réalité, elle est très peu contraignante. Aussi bien pour les entreprises que pour l'administration, pour la fonction publique. Bon, donc c'est effectivement des paroles dans un texte de loi, mais en termes d'impact pour les entrepreneurs, les entrepreneuses et les décideurs, etc. C'est quand même pas énorme. Donc ça pourrait être aussi un levier. Je voulais juste rajouter le service public de la petite enfance, parce que c'est ça dont il était question. Juste un petit détail. Moi, je rajouterais ce qu'il faudrait, c'est un service public de la petite enfance, effectivement, gratuit, et avec un recrutement mixte. Oui. Parce qu'en fait, un des problèmes aussi des métiers féminisés, masculinisés, c'est que les métiers féminisés, c'est souvent les métiers dans ce qu'on appelle le care, justement, s'occuper des autres, etc. Et en particulier, s'occuper des tout-petits-enfants. Donc, si c'est pour avoir un service public de la petite enfance avec que des femmes qui viennent faire les nounous, bon, c'est pas satisfaisant totalement non plus.
Oui, puis c'est des métiers qui sont en plus très dévalorisés. Et tout à l'heure, on parlait, on constate par exemple, c'est tout le temps les femmes qui font la cuisine dans le foyer, mais les chefs cuisiniers sont des hommes. C'est les femmes qui font la couture ou les tricots ou les crochets, mais les créateurs de mode, c'est des hommes. C'est tout le temps comme ça. C'est-à-dire qu'à part les tâches dévalorisées, c'est les femmes qui les font. Par contre, à partir du moment où on rentre dans l'art, etc., c'est les hommes.
Et alors, on avait prévu d'aborder plein de sujets et on n'a pas eu le temps. Et juste une dernière question. Par rapport à cette question-là, qu'est-ce qu'on pourrait faire au niveau local? Est-ce qu'il y aurait des solutions à apporter? Est-ce que, par exemple, si vous aviez en face de vous Frédéric Béatz, vous auriez quelque chose à lui demander?
Alors, à demander, non. Alors, juste pour répondre à votre question, au niveau local, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, ce qui est super important, c'est l'action collective. Il y a la loi, d'accord. Il y a ce qu'on fait chez soi, etc. Mais il y a se mettre ensemble. L'action collective, ensemble, on est plus fort. Donc, on peut rejoindre des collectifs, on peut rejoindre des associations, on peut militer, on peut prendre de son temps, voilà, pour militer, etc. Et on peut faire ça au niveau local, déjà. C'est une bonne chose.
Et sur le plan politique, il y aurait des solutions à apporter?
Certainement. Enfin, c'est vrai, comme vous l'avez suggéré, que la question est très vaste et elle ne se pose pas uniquement au niveau local. Donc local, on ne peut pas apporter des solutions à un problème global purement localement. Alors je ne sais pas si on croisait Frédéric Béat, je ne sais pas. Ben, c'est vrai que la mairie actuelle entend lutter, ben, c'est un truc qui arrive bientôt là, pour la mixité, puisqu'il y a justement l'événement mixité qui va se produire. Nous, on pense que dans le collectif d'égal à égal, on pense que c'est bien de lutter contre, enfin, pour la mixité. Enfin, c'est mieux que d'être contre la mixité. mais nous, on préférerait entendre plus parler d'égalité.
D'égalité.
Oui, parce que la mixité homme-femme, ça veut dire qu'il peut y avoir, par exemple, une femme pour 9 hommes. La parité, on entend parfois dire que la parité, c'est pas 50-50, ouais. Mais si. Et nous, voilà, on est plus sur une logique d'égalité homme-femme que de diversité ou de mixité.
Avant de conclure, parce qu'il faut qu'on conclue, il y a la marche des femmes donc, qui aura lieu, c'est vendredi.
C'est vendredi prochain.
Vendredi 22.
Donc ça, c'est vrai, c'est une marche. Alors le 25 novembre au niveau national et international, c'est la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Au niveau local, là, le collectif s'est emparé de ça cette année. Et on fait une marche de femmes contre les violences sexistes et sexuelles, une marche de nuit. Donc c'est vendredi 22 novembre à 20h. On marche contre les violences, toute forme de violence. Violence, c'est le viol, c'est la mutilation sexuelle, c'est le mariage forcé, c'est aussi la violence conjugale, la violence au travail. Et puis c'est la violence de tous les jours, c'est « Eh, vas-y, t'as un beau cul, vas-y », voilà. C'est ça. Et c'est aussi revendiquer le droit de pouvoir sortir habillé comme on veut, n'importe quand, et pouvoir marcher dans la rue.
Même la nuit.
Même la nuit. La nuit nous plaît, on veut sortir en paix. Voilà.
Donc le 22 novembre à 22h.
À 20h.
Du centre commercial Fleur d'Eau.
Voilà, rendez-vous au centre commercial Fleur d'Eau.
Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Je vous en prie, merci.
Merci à vous de nous avoir invités.
Dans l'aéroport, traversée d'étranges brumes, au bord d'un lac, j'ai trouvé un arbre à plumes. Ma gamin guidé par sa fièvre lumineuse s'est installé sur son écorce rugueuse. How my feet are free, my feet are free. I only want to be free. Il m'a confié des secrets, des mystères. Il m'a parlé en langue imaginaire. Il m'a montré la magie et le beau. Il chantait l'oubli, l'amour à demi-mot. Loin de la lune et ses cratères caché, si loin des dunes et leurs nuages abîmés, nous étions deux au bord de l'eau immobile. Là-bas, le feu, les lumières de la vie. Le mien, le nôtre.
C'était Anouk Ayata, l'arbre à plumes. Et maintenant, on retrouve Sonia, périscope à l'œil, qui scrute l'actu toute la semaine pour nous livrer son débrief perso et donc très subjectif le vendredi à 19h30 et des poussières. On écoute tout de suite.
Salut à tous, dans l'actu cette semaine. Ce week-end, du typhon Ayan qui a ravagé les Philippines vendredi 8 novembre. Les dégâts et les morts sont à la hauteur de ce cyclone le plus puissant jamais enregistré, avec des vents atteignant jusqu'à 315 km/h. Alors que l'ONU estimait qu'il pourrait y avoir près de 10 000 morts, le président philippin Benigno Aquino a déclaré que ce chiffre pourrait être moins important que prévu et s'établir entre 2 000 et 2 500 victimes. Lundi, c'était férié mais pas pour tout le monde, c'était le 94e anniversaire de la signature de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Et le président nous a une fois de plus offert un épisode des malheurs de François. Après avoir été trempé lors de son investiture en mai 2012, après avoir été le sujet de nombreuses railleries qui lui ont valu le surnom de Flamby, une cote de popularité qui ne cesse de décroître, son copain Valls qui devient le préféré, il fallait donner bonne figure lors de ce jour de commémoration. Sauf qu'il s'est fait huer. 73 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Emmanuel Valls a déclaré que ces personnes étaient des groupes d'extrême droite. Tiens, tiens. Ah oui, mais non, c'est vrai, le Front National n'est pas un parti d'extrême droite. Pourtant, Marine Le Pen a réagi.
Population, quand on est dans une situation de rupture de confiance à ce point, je ne vois pas d'autre solution que de revenir aux urnes et peut-être de décider de la dissolution de l'Assemblée nationale pour retrouver la voie de l'apaisement.
Pauvre François. Lundi toujours, mais à Angers cette fois-ci, une manifestation contre le racisme a eu lieu. Près de 3000 personnes ont manifesté pour faire part de leur soutien à la garde des Sceaux, Christiane Taubira, victime d'insultes racistes lors de son passage dans la même ville. Une jeune fille l'avait en effet insultée de guenon. Plusieurs personnalités de la vie locale étaient présentes, notamment le maire, Frédéric Béast, ou encore son principal rival, Christophe Béchu. Manifestation qui nous fait du bien et nous montre que la France et Angers ne sont pas des endroits où le racisme est roi, comme certains partis tentent à nous le montrer, mais bien un lieu de tolérance et d'acceptation de l'autre. Seulement voilà, la mode est si regrettable sans être à celui qui sera le plus raciste. L'hebdomadaire d'extrême droite, Mini, a publié quelques jours plus tard, le mercredi 13 novembre, une pour le moins explicite. Maligne comme un singe, Taubira retrouve la banane. En effet, l'hebdomadaire, à défaut de vendre beaucoup d'exemplaires, n'a eu d'autre recours que celui de provoquer une nouvelle fois un scandale afin de se faire une petite pub avec un slogan douteux qui résume en quelques mots la ligne éditoriale et l'humour de ce magazine. Une enquête a été ouverte pour injures publiques à caractère raciste. Par ailleurs, les parents de l'adolescente de 11 ans qui avait insulté de guenon le ministre de la Justice ont réagi dans les colonnes du Courrier de l'Ouest au sujet du scandale provoqué par les propos de leur fille, à Angers et en France. Je vous laisse découvrir cette plaidoirie burlesque sur le site du Courrier de l'Ouest. Mardi, après le clash Moubel Afouine ou encore Maître Jumsroff, le clash Jean-Marc Ayrault, Malek Bouti, député socialiste de l'Essonne. Ce dernier a déclaré mardi dans un entretien avec Le Parisien qu'il faut, je cite, « remplacer le Premier ministre d'urgence ». Mais Jean-Marc Ayrault ne se laisse pas faire, non, et a de suite répondu.
J'ai une tâche difficile à accomplir. Rien ne m'impressionne. C'est pas l'auto-dénigrement ou l'auto-destruction. Ce qui me préoccupe, c'est le rassemblement de toutes les forces les plus avancées.
Mardi toujours, affaire Béast. Pour rappel, le maire d'Angers, Frédéric Béast, a été accusé par le camp adverse d'avoir commandé en juin des enquêtes politiques d'un montant de 90 000 euros aux frais de la ville. L'Ouest France a rapporté mardi qu'il se pourrait que l'ordinateur du maire angevin ait été piraté. Il a actuellement entrepris des investigations en mairie. Attention, la NSA est partout.
Elle n'est pas en studio live, mais elle est dans la bobine. Clara, notre conseillère particulière, nous délivre sa chronique sexo et ce soir, elle s'arrête sur les habitudes des femmes au lit.
Cette rubrique ne concerne pas que les nanas, mais également les mecs. Et d'ailleurs, prenez-en de la graine. Si vous avez soif d'idées, de conseils ou alors de questionnements en tout genre, je ferai en sorte de combler tous vos manques. À bon entendeur, bien sûr. Pour cette première chronique, j'ai voulu me pencher sur les pratiques répandues et celles peu acceptées en France, pour bien comprendre ce que le partenaire recherche et est prêt à faire aujourd'hui. Alors, si l'amour semble être un point essentiel chez les Françaises, elles conçoivent également d'avoir un rapport sans. D'après une enquête d'auféminin.com, 23% des répondantes ont déjà eu une aventure d'un soir. Et comme vous le savez, notre société est le reflet d'une ère marquée par les nouvelles technologies. Et la pratique complémentaire la plus courante reste l'envoi de photos sexuellement explicites, qui trouve un certain succès chez 14% des Françaises. L'envoi de photos coquines à son partenaire est bien évidemment un indice d'avancée technologique, mais c'est aussi la preuve qu'il est important de se rappeler sexuellement l'un à l'autre, d'entretenir le désir et la sexualité. Cela se fait donc sous plusieurs formes. Alors ce type de pratique peut paraître ridicule aux yeux de certains et certaines, mais l'envoi de photos ou SMS un peu coquins fait généralement rougir ou rugir. Alors tout à vos téléphones portables si votre homme n'est pas avec vous ce soir. Viennent ensuite les jeux de rôle, testés au moins une fois par 10% des Françaises. Le jeu de rôle est peu pratiqué car même en gagnant confiance dans son couple et sans timidité, se lancer déguisé en princesse ou alors en catwoman ne reste pas à la portée de tout le monde. Pratique rare mais efficace. N'oubliez pas, pimenter le couple en fait sa pérennité. Et la grande mode des sextapes avec des célébrités phares telles que Paris Hilton ou Lorma Doudou ont voulu immortaliser leur performance à l'aide d'une caméra ou d'un appareil photo. L'idée semble séduisante et bon nombre de coquins en tout genre ont déjà tenté l'expérience. Malgré tout, ce film où se prendre en photo dans des positions compromettantes est aussi extrêmement risqué. Il faut tout d'abord réellement le vouloir et choisir le bon partenaire, quitte à faire une vidéo autant qu'elle soit réussie. Réussie veut également dire choisir la bonne position. Pas d'essai bancal, ce serait un essai raté. Les ébats filmés sont donc pratiqués par 8% des Françaises et cela peut être une grande aide pour s'accepter et enfin oser se regarder. Passons maintenant aux pratiques un peu moins fréquentes et conventionnelles. Le sadomasochisme, l'échangisme et les plans à trois restent les expériences les moins populaires. Seulement 2% chez les Françaises. Mais ces expériences se font de plus en plus. Les jeunes se découvrent et s'essayent à de nouvelles choses. La mode du trash rentre également en jeu entre celle qui aura fait la chose la plus folle et celle qui pratique dans des endroits insolites. D'ailleurs, faites attention, écoutez votre corps et pas le reste. Le sadomasochisme est la pratique la moins appréciée, à hauteur de 38% pour les Françaises. La soumission sexuelle est encore délicate aux yeux de nombreux. Les femmes ont du mal avec ces mises en scène qui n'ont pour finalité que la domination et non pas la séduction. Rappelons que cette pratique est basée sur de la violence que l'on fait subir à son partenaire, ce qui n'est pas dans l'esprit de tout le monde. La sodomie déplaît à 32% des femmes. Et oui, pour cette pratique, il ne faut pas seulement la vouloir, mais aussi pouvoir la faire. La sodomie implique également une certaine forme de soumission pour la femme, et aux yeux de certaines, un acte contre nature. Mais ne vous inquiétez pas les gars, il en reste quand même 68% qui la pratiquent. Ces chiffres traduisent ainsi une véritable libération de la femme et une focalisation sur le plaisir, et non plus sur l'appartenance de leur corps à un autre. Elles sont maîtresses de leurs envies et c'est le principal. Donc voilà, c'était un petit point sur ce qu'aiment et détestent les jeunes françaises à travers le sexe, mais cela risque d'évoluer à grande vitesse. Je vous souhaite un très bon week-end, soyez couverts, dehors comme sous la couette.
C'est donc la chronique sexo de Clara. Une petite réaction, Gaëlle Thébault, Olivier Laurette.
La réaction de juste dire que c'est chouette, ouais, le sexe pour se faire plaisir. Après, ce style de reportage, de sondage, oui, on comprend pas très bien en fait ce qu'il cherche à dire. Le problème de la sexualité, c'est qu'il y a beaucoup d'injonctions qui sont faites aux femmes, et notamment en termes d'apparence et juste l'épilation. Voilà, ça c'est un truc qui est fait aux femmes, et souvent les femmes vont dire « non mais c'est pour moi que je le fais », comme des pratiques sexuelles diverses et variées. Et c'est pareil, il faudrait qu'on arrive à travailler sur les injonctions.
En fait, ce qu'il faudrait aussi dans ce genre de sondage, c'est d'avoir les mêmes sondages pour les hommes.
Pour les hommes.
Ça permettrait de savoir quel est le pourcentage d'hommes qui envoient des photos coquines. Parce que je pense que les envois de photos en petite tenue, enfin, j'imagine, ça relève peut-être aussi d'une forme d'injonction à faire la, voilà, à se montrer. Mais je suis pas sûr que ça soit égalitaire, ça.
Bon, c'était un sondage sur auféminin.com. Alors
ouais,
peut-être qu'ils, voilà, ils ont.
Il faudra peut-être voir le site auféminisme.com.
auféminisme.com.
Voici venue l'heure de Mathilde, qui cette semaine a dû flâner du côté de l'espace culturel.
C'était mercredi soir, une scène musicale ouverte, les Ben Power Trio qui répétaient pour leur concert de jeudi soir. J'ai rencontré Lucie Tarot de la politique culturelle de l'Université d'Angers. Elle a sûrement dû vous interpeller ces derniers jours sur votre campus, à la BU, pour vous parler du nouveau projet angevin de la saison culturelle septembre-décembre. C'est tout nouveau, tout frais. Une saison culturelle, ça veut dire... une montagne d'événements toute l'année. Musique, théâtre, concerts, conférences, photographies, expositions, débats thématiques, ateliers d'initiation. La cible, les étudiants. Les partenaires, le Shabada, les 400 coups, le Quai, la Galerie Sonore, le Festival Premier Plan, l'ONPL. Ils nous proposent un programme complètement éclectique avec au moins 3 événements par semaine. Et c'est abordable pour 2, 3, 4 euros. Vous ne connaissez pas le jazz? Laissez-vous tenter. Le cinéma engagé? Un débat animé sur les nouvelles technologies? Des ateliers de photographie pour des amateurs comme vous ou moi, accompagnés de professionnels. Ils mettent à disposition une carte culture pour 5 euros qui donne accès avantageusement, selon ses intérêts, à des événements angevins. Maintenant, vous avez un groupe, avec vos copains, et vous bidouillez musicalement, mais brillamment. Mais ce groupe, il tourne à la base de répétitions dans le garage ou dans votre chambre. Le Festival de la création universitaire en avril 2014 peut être une opportunité. Pour la création amateur, les projets enfouis des étudiants, théâtre, improvisation, danse, musique, ce que vous voulez. Pour la découverte, c'est aussi des ateliers divers, artistiques, des prix de la photo, des stages d'initiation lumière, d'autres avec le Nouveau Théâtre d'Angers, ou aussi avec la Galerie Sonore. La Galerie Sonore qui propose notamment accompagner, d'essayer des instruments du monde entier, certains que vous n'aurez jamais vus ou imaginés, dont vous n'imaginiez sûrement pas qu'ils puissent en sortir un son. Vous êtes étudiant, en mal de bon plan, et vous vous ennuyez dans le fond de votre canapé Ikea, la saison culturelle, c'est une opportunité pour se monter une culture personnelle et diversifiée.
Il fait froid, il pleut, il fait nuit à 14h30. Qu'est-ce qu'on peut faire de nos longues soirées la semaine prochaine, Mathilde?
Ça n'est sûrement pas encore cette semaine qu'on restera dans ses jolies pantoufles, chez soi, sans savoir quoi faire de sa soirée. Je vous ai fait une sélection bien éclectique d'événements angevins pour ces prochains jours. Cette semaine, c'est la Trix Party au Shabada pour une scène plutôt techno cette année, le tremplin Buzz Booster avec Flint et des jeunes groupes des Pays de la Loire pour un son hip-hop rap, la Modern Factory, Yodelis, Delta, Mamba Cat, c'est une pièce de théâtre avec Perplex.
Art sonore donc maintenant.
C'est une rencontre, bon, une conférence, mais rencontre, c'est moins pompeux, plus chaleureux. C'est le 18 novembre à l'espace culturel. C'est donc une rencontre organisée à l'espace culturel sur le campus de Saint-Serge par Damien Simon et l'association Plein Champ. Damien Simon, directeur à Rennes du site d'expérimentation artistique Bon Accueil. Il nous dit « L'art sonore, c'est découvrir qu'on a des oreilles. » Et l'association Plein Champ, une association bien angevine qui nous programme pour cette année, par exemple, la semaine du son. Mais j'en reparlerai en temps voulu. Art sonore, c'est donc une rencontre appelée l'invention des télécommunications, un monde nouveau sonore pour les artistes. Un débat autour de la révolution et l'impact des sciences techniques sur l'enregistrement et la diffusion de la voix. C'est gratuit et c'est tous les troisièmes lundis de chaque mois.
Et comme c'est ta spécialité, tu vas forcément nous proposer une sortie électro.
La rêve moderne, le samedi 16 à l'espace Longuenée à la Méniane. À ne pas confondre surtout avec la Modern Factory au Shabada du 20 décembre. Ça commence donc à 22h pour terminer à 4h30 pour les plus acharnés mais majeurs d'entre vous, pour 18€. Avec des noms comme celui de Clara Motto, une Autrichienne, Arnaud Gonzalez, Oniris et Resmoon, ils nous donnent l'eau à la bouche. Ce sera d'abord Clara Motto, repérée et recueillie par Agoria, dont c'est un label indépendant Infine, pour une soirée techno élégante et sensuelle. Puis Oniris, pour une ambiance techno mélodique d'Astropolis Records, Resmoon et Arnaud Gonzalez. Arnaud Gonzalez de la Timid Records, un habitué des soirées électro-angevines comme la Timid Party ou la Modern Factory.
Plus calme et plus radiophonique.
Yodelis maintenant le mardi 19 au Shabada pour un son pop-folk. Avec leur musique More Than Meet the Eye, où le bassiste nous donne le move, connu de tous et entendu de tous, Yodelis nous enverra un son rock, cadencé et déjanté. Il nous présentera Square Haze, son troisième et tout dernier album, au Shabada mardi prochain pour 26€ la soirée.
Et c'est complet déjà. On en a parlé cette semaine sur Radio Campus Angers.
Pour une sortie un peu moins animée qu'un concert, mais tout aussi captivante, c'est Perplex, une comédie absurde, dynamique et interactive avec le public. Les affiches pour cette comédie courent les rues en ce moment à Angers. Alors Perplex, c'est une création théâtrale. Une création, c'est quoi ? C'est une pièce, produite et mise en scène ici à Angers, au NTA, et qui est représentée ensuite dans toute la France. Perplex, c'est donc créé par Frédéric Bellier-Garcia, metteur en scène, mais surtout directeur du NTA, et initialement de Marius von Mayenburg. Le NTA confie que c'est une comédie absurde, oui, mais plutôt une pièce sur l'absurdité de la comédie, des caprices de la vie et du théâtre même. Intrigue de base plutôt simple, un couple du retour de vacances chez eux traverse un spleen, une mélancolie de leur voyage. S'ensuit un jeu entre les rôles, une balance entre leurs identités en tant qu'acteurs et comédiens, puisqu'ils incarnent des rôles, oui, mais toujours avec leur propre nom. Je pense notamment à Valérie Bonneton, actrice de « Fais pas ci, fais pas ça ». On parle pour cette pièce d'un cluedo philosophique. Alors à vos agendas si cette intrigue vous tente, c'est jeudi 14 au samedi 30 novembre. Pour les étudiants, ils pensent à nous, le Quai propose un bon plan étudiant. 3 spectacles pour 24€, soit 8€ la pièce de théâtre au lieu de 11€. À noter que la nouvelle carte culture que propose l'Université d'Angers peut prendre en charge ce bon plan étudiant.
Ladies and gentlemen, now the moment you've all been waiting for, the world famous Jack Rabbit Slim.
Au bar du Quai, un bon plan gratuit pour votre soirée du 23 novembre, c'est Mamba Cats. Si vous êtes dans l'optique de bouger sur un son complètement décalé, nouveau, c'est eux, avec notamment un ex-membre de la Gouda. Leur credo, leur passion, les chatons, les vinyles, et pour les citer, les crampes au mollet de quand tu danses depuis 20h et qu'il est 7h du mat. Pour une palette musicale déjantée, mixée, ces chats sauvages, comme ils aiment se faire appeler, vous offriront un délire de riff de guitare, scratch et une projection d'image complètement psychédélique. C'est pas l'envie qui me manque de disserter sur la montagne de soirées de cette semaine, mais cette petite liste exhaustive vous évitera déjà sûrement des soirées plateau télé.
Merci à toi de nous éviter ces soirées plateau télé. Comme on est absolument en retard, je passe sur l'agenda. Il est l'heure de lâcher l'immersion. Aux manettes ce soir, c'était David et derrière les micros, Thomas et Mathilde. Sonia, Clara et une deuxième Mathilde ont également participé à ce sous-marin. Vous pouvez nous réécouter sur notre site internet www.radiocampusangers.com. Tout de suite, vous retrouvez Sine Qua Non, l'émission du 7e art qui va être très bien. On a une équipe très très bien cultivée en termes de cinéma. Suivi de l'Arsen, la rediffusion d'un concert live, et ce soir c'est celui des High Sausages. Avant de remonter à la surface, on vous quitte avec la bulle sonore. C'était le 26 octobre dernier lors de la dernière des journées féministes d'Angers. Avant l'année prochaine évidemment, Mathilde est allée sur place avec son micro et a recueilli le témoignage d'une femme, vous allez l'entendre. Merci à vous d'avoir embarqué dans le sous-marin, passez une très bonne soirée à l'écoute de Campus et un très bon week-end aussi. On se retrouve lundi à 19h, allez, bisous.
Qu'est-ce que vous pensez de la place de la femme aujourd'hui dans la société ? Elle n'est pas simple. Hein. On vient d'en débattre tout à l'heure sur notamment l'égalité homme-femme dans les activités ménagères, que ça n'a pas évolué depuis quelques siècles, même si on voit une toute petite évolution du côté des hommes. Si le temps diminue du côté des femmes, c'est bien grâce à la mécanisation. Moi, je travaille plus dans le milieu agricole. L'égalité homme-femme dans le milieu agricole, on en est loin, très très loin. Les dirigeants sont tous des hommes. Il y a quelques femmes qui s'en sortent et qui montent très très vite, mais elles ont affaire quand même à des discours qui ont tendance sexiste. Voilà.
Et qu'est-ce qu'il faudrait changer selon vous ?
Qu'est-ce qu'il faudrait changer ? Je pense que c'est à la base. Je pense que c'est dans l'éducation des enfants qu'il faut travailler. C'est dans les magazines qu'il faut réfléchir à ce qu'on dit et à ce qu'on photographie. C'est dans les conversations de café qu'il faut éradiquer un certain nombre de classiques où on va déjà mettre en différence l'homme par rapport à la femme. Chacun est différent, chaque personne a sa façon d'être et même entre différentes femmes, on peut être plus rangé, moins rangé, plus apte à bricoler et moins apte à faire la cuisine, etc. Ça tient pas au sexe, ça tient à la personne.
Voilà. D'accord. Merci beaucoup.
We all live in a yellow submarine. Yellow submarine. Yellow submarine. We all live in a yellow submarine. Yellow submarine. Yellow submarine.
Création, découverte, etc. Radio Campus, Angers.